conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Deuxième interview, je reçois Martin Duplantier, que j'ai reçu précédemment en tant que président AEMO. Et voilà, vous aurez, chers auditeurs, la possibilité d'écouter cette interview. Aujourd'hui, je le reçois en tant qu'architecte. Bonjour Martin Duplantier.
Bonjour Myriam.
Alors, architecte, grand mot, évidemment. Architecte, urbaniste, faiseur de ville, c'est quoi l'ADN de votre agence,
hein? Alors, l'ADN de l'agence, c'est d'avoir une approche justement tridimensionnelle entre de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage. C'est voir la ville de manière différente, de manière plurielle, et c'est aussi d'intervenir dans des situations culturellement variées, donc pas simplement en France, mais aussi à l'étranger.
Alors ça veut dire que dans les 30-35 personnes que vous avez vraiment des Français, des étrangers, j'aime pas ce mot, enfin des paysagistes, des architectes, des urbanistes, des sociologues, des etc. etc.
Oui, alors sans aller non plus chercher l'anthropologue de service, mais on a fait quelques profils très variés qui nous permettent de converser avec nos partenaires dans des langues différentes, dans des cultures différentes. Et même, je dirais, sur des territoires très, très variés, donc avec des climats aussi différents. Donc tout ça, ça enrichit notre pratique, ça enrichit nos expériences, nos idées, et on en profite aussi pour enrichir forcément nos projets français, puisque pour moi, le fait de travailler à l'international, c'est pas une fin en soi. Financièrement, c'est extrêmement compliqué.
Oui.
Et donc l'idée, c'est plutôt de s'enrichir soi-même, de se libérer de tout un tas de contraintes qu'on pourrait avoir en France, pour revenir ici aussi et se dire, bah tiens, j'ai vu
ceci. Et vous faites exploser la réglementation, c'est-à-dire le fait d'aller travailler en Chine ou en Afrique, et on va en discuter,
ouais.
Fait que vous revenez avec, je dirais, des yeux complètement écarquillés du peu de réglementation qu'ils ont les trois quarts du temps ailleurs, et du carcan dans lequel nous sommes.
Mais hein. Oui, ou alors des réglementations différentes.
Différentes, bien sûr,
hein, voilà,
mais
donc c'est
peut-être moins contraignantes quand même.
Peut-être moins, c'est vrai qu'on on a quand même souvent la palme de la complexité. On en parlait avec les gens du ministère de la cohésion du territoire, justement sur ce permis d'expérimenter, comment les architectes peuvent être aussi force de
proposition. Vous avez déjà réussi dans votre agence à traiter du sujet?
Eh bien non, c'est pas si simple. Il y a beaucoup d'embûches sur le chemin, notamment en termes d'assurance, donc c'est pas évident, mais il n'empêche, sur la qualité des usages, sur les qualités, les trouvailles climatiques que l'on pourrait avoir dans des pays tropicaux, dans des pays qui connaissent de fortes chaleurs, évidemment ça doit nous nourrir dans notre pratique quotidienne.
Éviter la VMC à tout craint dans les bâtiments de logement en France?
Oui, par exemple.
Comment on pourrait faire
avoir des...
On va changer la réglementation quand même.
Oui, c'est sûr. Non, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que toute réglementation a sa propre logique, mais mises ensemble, elles sont souvent assez contradictoires, ou même...
Alors, on va se projeter en Afrique,
ouais.
Puisque j'ai vu que vous avez des projets en Afrique. Justement, parlons de ces projets. Expliquez-nous un petit peu quels sont vos engagements, mm-hmm. pourquoi aller travailler en Afrique, mm-hmm. En quoi vous avez l'impression de vous nourrir,
ouais,
de cet échange. Hein.
Alors, c'est drôle, parce que moi, mis à part le fait d'avoir une mère qui est née au fin fond de la brousse africaine zaïroise, j'ai commencé l'architecture par l'Afrique. J'ai été avec une association qui s'appelait Akaras. On construisait tous les ans des bâtiments en terre au milieu du désert du Sahara, donc au nord du Niger, et la terre cuite. La terre, pardon, crue.
Cuite.
Il est un petit peu tôt, je suis désolé. Voilà, cuite au soleil. Eh bien, c'est un formidable matériau. On construisait donc des bâtiments entièrement en terre crue, sans aucune utilisation de bois, que ce soit pour l'échafaudage ou que ce soit pour la charpente. Et vous avez une qualité du climat intérieur de ces bâtiments qui est fantastique.
Oui.
Donc,
c'est ce que vous faites aujourd'hui en Afrique, vous travaillez en terre.
Et alors on travaille pas seulement en terre, parce que on peut pas toujours le faire quand on fait des bâtiments de plusieurs étages, c'est assez complexe, mais en tout cas ça m'a donné forcément des
envie de la matière.
D'envie de la matière. J'ai construit l'école française de Luanda en Angola, qui n'est pas en terre mais qui est en béton avec de larges coursives ventilées, avec une ventilation naturelle de beaucoup de salles qui est mise en avant. Et donc en effet, cette réflexion tropicale, équatoriale ou même d'un climat extrêmement sec et aride, eh bien elle est intéressante puisque
ah oui, parce que bientôt sous nos latitudes nous allons avoir la même chose ou presque.
Oui, on espère que ce ne sera pas totalement le cas, mais en effet il y a beaucoup de chances que ce soit fort différent de ce qu'on a aujourd'hui.
Donc ça veut dire, ça c'est de quoi l'Afrique peut vous nourrir, ouais. Mm-hmm. Et l'Asie,
alors l'Asie, il y a des Asies, il y a Singapour.
Non, mais enfin bon, vous travaillez aussi à Singapour, voilà. Vous travaillez en Chine, à Shenzhen.
Voilà,
vous pouvez nous expliquer les différences, on va les comprendre vite. Mais...
Oui, alors, et puis on fait un musée au Cambodge, là justement en terre crue et en bambou. On travaille donc avec la mairie de Shenzhen là, sur un grand concours en ce moment où on est finaliste pour un quartier de 500 hectares. Shenzhen, c'est 600 000 habitants. En plus, chaque année. Donc 600 000 habitants, si vous prenez...
Alors, donnez-moi la recette pour travailler en Chine, à part le fait d'être obligatoirement associé avec une agence chinoise.
Il faut être sur place.
Il faut être sur place.
Donc ben là, hier, j'ai une petite équipe qui est partie pendant un mois pour y travailler à Shanghai, pas à Shenzhen, mais à Shanghai, et puis qui va travailler main dans la main avec nos partenaires chinois pour faire en sorte que le projet soit... à la hauteur de notre ambition. Donc ça ne se fait pas par téléphone.
Alors vous avez
ou par Skype.
Une chance d'être gagnant bientôt ou pas? Comment vous évaluez un peu vos chances?
Je vous avouerai que je suis un petit peu échaudé par les aventures chinoises, parce que même quand on gagne, on ne gagne pas. Ou alors,
c'est-à-dire que c'est pas sûr de développer le projet, c'est
ça? Tout à fait, exactement. Mais alors, parlons un petit peu de la France, parce que les overseas, comme on dit, l'étranger, c'est une petite partie de notre activité. On est quand même essentiellement en France. En France, pas simplement à Paris, mais un petit peu partout.
En France, donc Paris,
ouais.
Quel type de projet en province,
hein? Alors, à Paris, ben, on travaille sur des territoires très variés. En ce moment, on est en train de livrer de la ZAC Paul Bourget sur un bâtiment de logement social et logistique. On travaille aussi sur les Hauts-d'Anières, sur un projet de NPNRU, donc plutôt en phase urba. Et puis en France, on a des projets que ce soit autour de la Cité Radieuse. À Marseille.
Ah d'accord. Donc, et c'est quoi, racontez-moi, parce que la Cité Radieuse, ça nous parle quand même, nous architectes.
Évidemment, ça parle à tout le monde.
Est-ce qu'on peut faire un projet urbain autour de ce monument?
Voilà, ça c'est la grande question.
Aïe, aïe, aïe.
Oserait-on faire un projet urbain, ou est-ce qu'il vaut mieux laisser les boîtes à chaussures qu'il y a tout autour? Non, c'est vrai qu'on a aidé la mairie de Marseille à réfléchir au territoire qui était en fait... Il y avait une espèce de vide dans leur PLU qui permettait de bâtir.
De faire n'importe quoi.
N'importe comment. Voilà. Donc, on a essayé de réglementer.
Et ça veut dire qu'il y aura une petite cité radieuse ou un petit quartier, entre guillemets, corbuséen, au pied de la cité radieuse?
Oui, c'est ça. On a utilisé des typologies corbuséennes, en effet. Les tours des célibataires, notamment, qui sont des tours de 50 mètres de haut et de 20 mètres de diamètre, qui étaient censées accueillir tous les célibataires, là, évidemment. Qui accueilleront aussi des familles, on ne sera pas
aussi sectaire,
mais...
Parce que nous sommes dans la mixité d'usage, donc logements familiaux et logements dédiés.
Oui, mais on a surtout essayé de mettre en valeur la cité radieuse, de la mettre en valeur par un réseau d'espaces publics qui donnent des points de vue, des perspectives sur cette cité radieuse, et qui permettent aussi au troisième étage de la cité radieuse, lorsque vous êtes dans le ventre de l'architecte, eh bien de toujours voir évidemment la mer, et les montagnes de chaque côté. Donc on
ça veut
a
dire que vous
épanelage.
Intervenez aussi dans la cité?
Et on n'intervient pas dans la cité. Non, on intervient sur le parc. Enfin, en tout cas, on donne des prescriptions, par exemple, notamment pour cette histoire de parking qui est au pied de la cité radieuse.
Oui, qui est un vrai problème.
Qui est un vrai problème, voilà. Donc,
si vous avez besoin de quelqu'un pour vous construire un parking en silo, n'hésitez pas.
Très bien.
Pensez à une petite... voilà.
Une petite boutade. Auto-promotion, d'accord.
Non, mais bon, donc c'est important ce travail sur la cité radieuse, mais d'une manière un petit peu plus générale, les 10 ans à venir de l'architecture, de l'agence d'architecture du Plantier, c'est quoi?
Alors c'est quoi?
Spécifique? C'est quelque chose de spécial?
Ouais, je ne sais pas s'il y a quelque chose de spécial. En tout cas, moi, j'ai vraiment la conviction que les choses vont de plus en plus vite. qu'il va falloir s'adapter de manière assez, assez radicale, que le métier est en métamorphose totale. On attend d'ailleurs ce qui va se passer en termes de juridique sur le cas Jean Nouvel contre
la Philharmonie. Ne me dites pas que vous attendez, c'est-à-dire vous êtes aussi proactif sur le fait de...
On est proactif, mais si jamais Jean Nouvel est condamné à rembourser 170 millions d'euros, je pense qu'on va tous poser le crayon et on va se dire, on est designer.
On va avoir du mal à travailler.
Et on fait comme en Asie. C'est-à-dire qu'en Asie, les architectes sont des designers et on a des bureaux d'études extrêmement bien armés qui sont assurés sur tout. Et
puis, avec des directions juridiques qui les capent, qui les protègent.
Exactement. Ouais. Et ils ne s'en portent pas beaucoup plus mal. Donc je crois qu'on est un peu à la croisée des chemins. On est responsable de tout aujourd'hui, mais en charge de rien.
Mais ça veut dire que vous voyez ne plus toucher la matière, vous qui aimez tant la matière, comment fait-on du coup pour être protégé, assuré, si on n'a plus le droit d'être sur un chantier?
Tout ce que je dis là est un petit peu provocateur, mais je crois qu'il faut surtout bien s'armer, il faut que nous soyons structurés, nous architectes, que nos agences soient les plus professionnelles possibles, que notre pôle chantier soit extrêmement conséquent. On sait que c'est là que se passe la majorité des problèmes. Il faut qu'on soit capable de négocier aussi les moyens qui sont mis à notre disposition, les ressources qui sont mises à notre disposition. Et donc tout cela, c'est un écosystème. Donc ce que je fais à l'AMO, évidemment, ça doit aussi servir à ça, c'est-à-dire à protéger la qualité de l'architecture, à protéger la qualité du produit.
Donc ça veut dire que sur vos missions, vous avez vraiment le sentiment que vous arrivez sur des missions complètes à défendre les intérêts du bien-faire
Beaucoup plus en mission complète qu'en mission...
Il faut le quantifier aussi financièrement.
Ah oui, tout à fait. C'est pas les mêmes pourcentages, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Donc d'ailleurs, le contrat AMO donnera des fourchettes d'honoraires à nos chers partenaires.
Alors, c'est vrai que cette sinistre histoire de Jean Nouvel et de la Philharmonie et le risque d'être condamné nous fait un peu terminer cette interview sur une note un peu lugubre de comment pourrait-on sourire.
Mais écoutez, moi je pense que le changement de paradigme qui est le nôtre, la révolution de beaucoup d'usages qui sont les nôtres sont... Et mettre son porteur et mettre l'architecte au centre du jeu. Nous sommes les seuls à avoir cette culture de l'imagination, cette culture du futur et finalement de l'invention. Et je crois qu'on est à la croisée, pas des chemins, mais des acteurs. Et donc, il faut qu'on assume ce rôle-là.
Mais il faut attraper au vol cette possibilité d'assumer, effectivement.
Voilà, exactement. Et il faut s'armer, il faut se structurer, il faut avoir des moyens à notre disposition pour pouvoir le faire. Donc, c'est pas en attendant que ça tombe du ciel, mais véritablement en se mobilisant.
Merci Martin Duplantier. Et c'est une très belle énergie, très belle manière de finir cette interview.
Merci.
Nous y allons, et vite. Merci
Myriam.
Au revoir. Merci chers auditeurs. À bientôt. Sur nos antennes, Radio Immo.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-immo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.